Chapitre 10e. Le soufre brûlé. Certes, les affiliés ne pouvaient avoir meilleur auxiliaire que cette femme. Nul autre n'aurait su remplir ici cette mission aussi bien qu'elle, parce que nul autre n'alliait à la souple intelligence dont elle était douée le charme captivant de sa radieuse beauté. Mais le chevalier, prévenu, continuait son rôle selon les indications de Martin Numa. Après un moment de silence, il ajouta, souriant, « Vous êtes venue, madame, pour déjà affirmer ma guérison, car lorsque vous remercierez tantôt mon cher Alio, vous lui direz de ma part que demain je pourrai certainement aller jusqu'à Saint-Germain voir les progrès de sa convalescence. Demain. Vous lui direz que ma blessure se cicatrise, qu'elle est en voie de guérison, que d'ici peu de jours j'abandonnerai cette écharpe qui supporte mon bras et me donne un air vraiment trop intéressant. » Il accentua même, dans un sourire plein de raillerie, sa réponse et dit « Je connais sur le boulevard des gens qui eussent été fiers de porter comme moi le bras en écharpe. Pour moi, un bras en écharpe veut dire blessure de duel, et blessure de duel est un pas de plus dans l'amour des belles. » La belle Focamore, à ces mots, malgré elle, tressaillit. Elle se rejeta sur le dossier de son fauteuil et enveloppa d'un regard plein de lueur le chevalier Fontis qui, maintenant, s'était mis à rire. La belle Focamore eut sans doute à ce moment la sensation que le chevalier la jouait et presque se moquait d'elle, que l'amenant sur le terrain qu'elle avait choisi, il la battait avec les armes qu'elle avait elle-même employées. Mais le chevalier se reprit, et ne voulant pas montrer plus que cela à la belle Focamore et qu'il n'était nullement dupe de sa visite et qu'il la trompait, qu'il se jouait d'elle, il cessa de rire. Il prit une intonation comme attristée et lourde de souvenirs lointains. Il dit « Oui, un coup d'épée vaut bien l'amour d'une belle. Et il est bien des belles qui, certes, valent un coup d'épée. Mais il ne m'est plus permis à moi de risquer l'attaque d'une belle et l'attaque d'une épée. » Il y eut un nouveau silence. La belle Focamore se pencha un peu en avant et, baissant sur ses yeux noirs ses paupières alourdies, se mettant au diapason attristé du chevalier, elle dit simplement ce mot répondant à cette phrase « Pourquoi ?» Le chevalier ne répondit pas tout de suite. Il sembla chercher dans sa tête des mots pour faire une réponse évidemment difficile, des mots qui exprimassent sa pensée sans la dépasser et cependant sans l'amoindrir. Mais, fin comme un Sicilien, et voulant arracher à la belle Focamore encore quelque chose, il demanda doucement « Quelle question me posez-vous là ?» La belle Focamore se pencha un peu en avant et, pressentant peut-être un piège, pesa aussi les mots qu'elle devait faire entendre, et elle laissa à nouveau le chevalier poser sa question. Le chevalier redemanda donc « Je vous prie, madame, de m'expliquer ce mot. Pourquoi ? Que vous venez de me faire entendre, dont je ne comprends pas très bien la volonté ni le désir. » Quelle réponse et sur quel sujet voulez-vous que je fasse à ce mot « Pourquoi ?» La belle Focamore, cédant à l'intonation maintenant plutôt tendre du chevalier, poussée peut-être aussi par un souvenir lointain, chez elle demeurait sans doute très puissant, répondit « Vous me disiez, chevalier, que vous ne pouviez répondre à une belle ou à une épée, et je vous demandais pourquoi. » Le chevalier inclina la tête, tout bas, presque comme pour lui. Il dit « Pourquoi ni épée ni belle ? Oui, pourquoi ?» Comme douloureusement, le chevalier Fontis répondit « Parce que mon épée est accrochée à la panoplie parmi de vieilles armes, qui furent belles autrefois, qui furent vivantes jadis, et qui ne sont plus maintenant que des objets de luxe fanés, que des souvenirs glacés, et parce que sur mon cœur la pierre de l'oubli a pesé douloureusement. Il semble que, comme les épées qui ne sont plus vivantes, mon cœur est mort. » Il se tut. Puis il reprit, regardant alors la Focamore. Vous voyez combien il est dangereux pour moi de vouloir toucher aujourd'hui à ce qui fut le passé. J'ai voulu manier une épée, et comme j'en ai perdu l'habitude, elle m'a blessé. Je me garderai bien de faire revivre mon cœur pour jamais endormi, car je suis certain que mon cœur saignerait aussi. » Le chevalier se leva, il fit dans le salon quelques pas nerveux. Il passa devant la portière de velours, comme pour prendre auprès de Martin Numa, dont il sentait la présence là, un peu de courage et un peu de force, pour continuer à jouer le rôle qu'il tenait devant cette femme. Il était suivi incessamment dans sa marche par les yeux de la belle Focamore. Elle semblait vouloir l'envelopper, le prendre, l'enlacer, et le lier comme une proie qu'elle eût jetée à ses pieds. Rien dans son jeu de physionomie ne nous échappait. Elle était vraiment admirable, vraiment magnifique. À ce moment, nous pouvions comprendre amplement quelle force était l'appui de cette femme pour ce qu'elle servait, Et quel terrible danger pour ceux contre lesquels on la lançait. Le chevalier, lentement, maintenant la tête baissée, comme pliant sous le poids des souvenirs évoqués, revint s'asseoir en face de la belle Focamore. Et reprenant le ton enjoué qu'il avait affecté tout d'abord, il dit « Mais laissons tout cela. Les blessures au bras gauche semblent, étant près du cœur, être plus douloureuses. Pardonnez-moi d'avoir attristé, ne fût-ce qu'un instant, le rayonnement qu'a porté votre beauté dans ma maison si triste, si vide, et où ne viennent que de très amis, quelques savants et des artistes, mais où presque jamais ne s'est fait entendre le bruit soyeux et charmeur d'une robe de femme. Pardon d'avoir manqué à mes devoirs d'hôte, d'avoir parlé de mes malheurs, alors que je devais vous laisser parler uniquement de votre bonheur. » La belle Focamore, levant un bras, fit un geste de sa main aux formes admirables, la laissa retomber sur le fauteuil d'un mouvement dolent, secouant la tête, et dit « Mon bonheur ». Puis, dans un soupir, elle ajouta « Si j'avais à parler de mon bonheur ici, mes paroles seraient encore plus tristes que les vôtres. » Le chevalier eut l'air de s'étonner et dit « Permettez-moi, madame, à mon tour, de vous demander pourquoi. » La belle Focamore répondit « Parce que je ne peux, moi, me défaire de mes armes de femme, qui sont le sourire et l'éclat des yeux. Je ne puis écouter mon cœur, car plus que le vôtre, peut-être, il aurait des larmes de sang. » Plus douloureusement encore, elle ajouta « Douleur pour douleur et chagrin pour chagrin, nous sommes égaux. » Le chevalier l'écouta sans bouger. Elle reprit « Il est des fatalités contre lesquelles nous ne pouvons lutter sans nous briser. Il n'est pas de barque si bien gouvernée qui ne soit engloutie ou brisée sur un rocher quand la mer démontée a décidé sa perte. Hélas ! Tout courage, en ce cas, toute vaillance, le lendemain, se trouve sur le rivage comme une épave, et la mer, impitoyable, reprend sa vie, son allure de toujours sans que la moindre trace du drame de la veille demeure sur l'azur immaculé de ses flots immortels. » Le chevalier inclina la tête pour approuver. « Vous avez pu, chevalier, vous que l'orage a frappé, fuir le désastre, et vous réfugier dans la science, dans les arts. Vous avez pu chercher la consolation et l'oubli dans des terres lointaines, dans des pays nouveaux. On emporte sa douleur avec soi. J'étais femme, moi, et moins forte que vous pour supporter les tempêtes du sort. Je fus l'épave. L'épave ? Le hasard me jeta, non sur un rocher où je devais me briser impitoyablement, mais sur une plage de sable doré, où l'on vint me recueillir. La fatalité a pitié parfois. Mais, quelle que soit l'abri que l'on m'ait donné, quelle que soit la route nouvelle que l'on m'ait fait prendre, je me souviens toujours du port d'où je suis parti. Je me souviens toujours du premier capitaine. Je me souviens toujours de l'étoile qui guidait ma route. » Impassible, le chevalier laissait la Focamore déclarer sa tirade sentimentale. Elle reprit « On peut croire que le bonheur m'entoure. On peut croire que je suis heureuse. Oui, j'ai tout pour les yeux des autres. J'ai tout ce qui rend heureux. Mais je dois laisser croire à ma joie. Je dois laisser croire à mon bonheur. Et si l'on admire les brillants que je porte au cou, personne n'a vu les larmes qui si souvent coulent de mes yeux. » Et elle s'arrêta un moment et reprit, après avoir jeté sur le chevalier, qui maintenant gardait baissé la tête, un regard plein d'ardeur. Elle reprit « À nul autre qu'à vous, chevalier, je n'ai dit ce que vous venez d'entendre, car nul autre n'a pu lire et ne doit lire en moi comme a lu et comme peut lire encore celui qu'autrefois j'appelais Raphaël. » À ce nom, le chevalier ne put retenir un frémissement. Elvira continua « Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que Raphaël, chevalier Fontis, doit, d'après la vieille loi d'hospitalité sicilienne, écouter l'hôte qu'il a admis chez lui. » Le chevalier inclina la tête. « C'est parce que je sais aussi que cette heure que nous vivons, nous ne pourrons la revivre. C'est parce que jamais Elvira ne se retrouvera comme maintenant, seule, en présence de Raffaele, et que jamais Raffaele ne devra, selon la loi de l'honneur, écouter comme maintenant Elvira lui disant ce qu'il entend. » La belle Focamore, plus pressante maintenant, reprit « J'ai vu, par l'accueil que vous m'avez réservé lorsque je me suis trouvé en face de vous, à l'hôpital de Saint-Germain. Comment vous recevriez, Elvira, si de nouveau je vous rencontrais ailleurs que chez vous? Je voulais à toute force vous voir, vous parler. Je voulais que vous puissiez m'entendre. Je n'ose pas dire que je bénis cette blessure qui m'amène chez vous, mais je serais bien heureuse si vous aviez, vous, au bras la blessure, et si moi j'en avais la douleur, pourvu qu'elle me donnât cette joie de vous revoir. Car sachez-le, c'est pour moi que je suis venue. C'est pour savoir si vraiment il n'y avait rien d'autre que ce que disait votre lettre, et si vous ne cachiez pas la vérité en disant seulement qu'un léger accident vous retenait chez vous. » Le chevalier, simplement, montrant d'un geste son bras en écharpe, répondit « Vous le voyez, madame, j'ai dit la vérité. » Elvira répondit « Je puis donc me laisser aller sans remords à toute cette joie de vous revoir. Je puis donc ajouter sans scrupule ce bonheur de vous entendre et d'avoir cette illusion chère de redevenir Elvira et d'être chez Raphaël. » Elle se leva et vint au chevalier. Doucement, d'un geste félin, elle posa sa main sur l'épaule de Fantis et dit de sa voix la plus câline « Je vous remercie de m'avoir donné ce bonheur. Je vous remercie de m'avoir entendu. Ah, je puis partir maintenant, avec cette certitude que vous savez quel est le sentiment qui pour toujours est gardé dans mon cœur. Vous me laissez partir avec cette espérance que tout souvenir de peine est banni, qu'il ne reste entre nous rien de cette haine que la fatalité fit, dans un jour maudit, jaillir de notre amitié et qui, comme une flamme mauvaise, a brûlé ce qui fut notre amour. » Elle poursuivit, se baissant doucement vers le chevalier, inclinant sa taille souple et semblant l'envelopper du charme de tout son corps. « L'orage a passé, l'orage a tout balayé. Maintenant le ciel resplendit, plus pur et plus bleu, purifié par la souffrance, et le cœur semble prêt à voir refleurir ces heures bénies où l'on aime. Où l'on aime. Car vous m'avez entendue, car vous m'avez comprise, et vous savez que la démarche hardie que je viens de faire m'était dictée, par ce que nous fûmes autrefois, par l'ardent désir de votre pardon, de votre oubli, et le besoin de vous voir, et l'espoir d'être ce que nous avons été. Je ne comprends pas. Je vous fais encore, parlant plus clairement, cet aveu qui coûte toujours à une femme. Je vous révèle la première, que je vous ai toujours aimée, que je vous aime encore. Et je te dis, Raphaëlle, que je ne puis aimer que toi. » Elle prononça ces derniers mots si bas que c'est à peine si nous les entendîmes. Mais nous perçûmes cependant le bruit du baiser qu'elle mit sur le front du chevalier, dont, dans un mouvement nerveux, elle avait fait pencher la tête en arrière pour la mettre à portée de ses lèvres. Le chevalier, surpris, fit un bond. Il se dégagea de cette étreinte, renversa le fauteuil, bouscula un meuble, s'écarta de la phoque à moiret comme s'il eût marché sur un nid de vipère. Dans ses yeux, nous vîmes briller tout ce que le cœur d'un homme peut contenir de dégoût, de haine, d'abjection. Sa bouche se crispa dans un pli de colère. « Madame » s'écria-t-il. Il leva le poing comme s'il eût voulu écraser cette femme. Martin Numa, brusquement, passa la tête à travers la portière. De la main, il fit un geste au chevalier, le rappelant à la réalité des choses. La phoque à moiret, heureusement, nous tournait la tête, et, toute prise par le mouvement brusque et violent du chevalier, ne s'aperçut pas de l'intervention de Martin Numa. La portière retomba sans qu'elle eût le sentiment de ce qui s'était passé de l'autre côté. Le chevalier, lui, aperçut le geste, il comprit. Alors il abaissa lentement sa main levée dans un mouvement de colère, et rentrant, grâce à un effort puissant de volonté, dans son personnage du commencement de cette scène, il dit « Madame, pardonnez-moi de nouveau, mais vous venez de me causer la douleur que je redoutais tant. Oh, Raphaël, madame, il eût été heureux pour moi que l'épée qui m'a blessé au bras l'autre jour par accident eût traversé ma poitrine et m'eût tué. Je n'aurais pas aujourd'hui senti en mon cœur toujours endolori s'ouvrir cette nouvelle et dernière blessure. » La phoque à moiret fit un pas vers le chevalier et, cherchant de ses mains le reprendre, elle dit de sa voix la plus enveloppante et la plus caressante « Si tu veux, je saurai effacer toute douleur. Je saurai si bien panser ta plaie qu'il n'y aura plus de souffrance pour toi, mais des joies plus grandes et plus durables que cette blessure de ton cœur dont tu souffres. Raphaël, je t'aime. Oh, laisse-moi t'aimer. » De nouveau, le chevalier s'écarta et dit « Impossible, madame, impossible. Je dois rester avec ma souffrance. Je dois en mourir. » La phoque à moiret répliqua « Tu peux vivre si tu veux. Car si tu veux, celle qui t'aimait à toi. » Le chevalier l'interrompit et l'arrêta du geste. « Elvira, dit-il, Elvira, tais-toi. N'augmente pas ma douleur déjà trop grande. Tais-toi, je t'en supplie. Elvira ne peut plus être Raphaël, puisqu'Elvira est Danlio. » La belle Focamore eut un cri. « Qu'importe, Anlio, je ne l'aime pas, et j'aime Raffaele, et je suis à Raffaele si tu me veux. » Le chevalier arrêta encore la belle Focamore, devenant trop pressante, et lui dit « Assez, madame. Anlio di Villarcerboli est mon ami. J'aime mieux mourir de douleur que de faire la moindre peine à celui que je chéris comme un frère. » Puis, prenant sa voix triste, il ajouta « Elvira, au nom de ce passé que tu viens d'invoquer, aie pitié de moi et cesse de me torturer comme tu le fais maintenant. Oh, mon Raffaele, Elvira, je souffre. Ma blessure me fait mal. Je suis moins fort que je ne croyais. Je t'en prie, sois clémente, dis-moi adieu. » La belle Focamore implora de nouveau. « Mais alors, laisse-moi entrevoir un espoir. Dis-moi seulement un mot que j'emporterai en mon âme, comme la fiancée garde au doigt sa bague d'engagement et je m'en irai. » Le chevalier secoua la tête et répondit « Elvira sait que je suis un homme d'honneur. Tant qu'Elvira sera mon ami Anlio, je ne dois rien lui dire, rien dire que je ne puisse, devant mon ami, lui faire entendre. Un mot. Que cela te suffise, Elvira. Comprends, aie pitié de moi. Adieu. » Il lui tendit la main, l'écartant par ce geste de lui, et l'amena jusqu'à la porte du salon. Elvira voulut encore se rapprocher de lui. Elle entr'ouvrit ses lèvres rouges comme pour implorer un sourire. Mais le chevalier détourna la tête, ouvrit la porte et passa dans l'antichambre où, anxieux et aux aguets, se tenait le vieux Pietro. Le vieux domestique ouvrit toute grande la porte de sortie. Le chevalier, gardant dans sa main droite la main de la Focamore, l'entraîna hors de la maison. Ainsi, la tenant toujours, il lui fit traverser le jardin. Devant eux, la grille de fer forgé s'ouvrit. Le chevalier mena la belle Focamore jusqu'à sa voiture, demeurée le long du trottoir. Il l'aida à monter, l'installa sur les coussins, puis s'inclinant très respectueusement, il lui dit simplement « Adieu, madame, adieu. » Il ne se releva que lorsque la voiture se fut mise en route. Alors il traversa de nouveau le jardin. Il rentra chez lui, et la porte fermée, il cria dans l'antichambre « Va, mon vieux Pietro, n'aie plus peur. Rien de cette femme n'est demeuré ici. » Puis il pénétra dans le salon où nous nous trouvions, Martin, Numa et moi. Il tenait son mouchoir à la main. Il essuya son front et nous dit « Quel misérable! Quel misérable! Son baiser m'est resté sur la peau comme une atteinte de fer rouge. Il me semble qu'un peu de trahison, un peu d'infamie innommable m'a marqué au front. » Il se frotta de nouveau le front avec son mouchoir et il jeta le mouchoir dans la grande cheminée, puis il sonna Pietro. « Mais le feu, dit-il à cette loque, afin que l'infamie qui l'a souillée soit purifiée par la flamme claire, et que rien du passage de cette femme ne demeure parmi nous. » Nous revînmes ensuite dans la bibliothèque. Le chevalier s'assit dans le grand fauteuil en chêne sculpté et resta un moment silencieux. Nous fûmes tout à coup saisis à la gorge par une odeur âcre. Le chevalier alors, relevant la tête, nous dit en souriant « C'est mon vieux Pietro qui, selon une coutume sicilienne, pour purifier la maison où est venu un ennemi, où a passé un traître, brûle du soufre, pour enlever toute trace de son passage et rendre pur et sain l'air du foyer familial où l'infâme aurait pu laisser quelques germes d'infamie. » En résumé, nous dit Martin Numa, cette femme est une intrigante de première force. C'est, comme je le proclamais déjà, une comédienne hors ligne. Vraiment, la scène à laquelle nous venons d'assister, derrière la portière de velours, a été admirable, émotionnante, poignante au plus haut point. En souriant, il ajouta « Il ne m'appartient pas, chevalier, de rechercher la part de vérité qui peut exister dans les déclarations de la belle Elvira. Quel est le degré de sa sincérité? Cela est à vous, fait partie des jours passés qui ne doivent pas être rappelés ici. » « Oui, oui, » fit douloureusement le chevalier, « cela vaut mieux. » « N'en parlons plus, n'en parlons jamais. » Agiter ses souvenirs, c'est remuer de la boue, c'est faire naître de la pestilence, c'est évoquer la mort. Je vous en prie, ne parlons jamais de cela. » Martin Numa, après un court moment de silence, reprit. « Quoi qu'il en soit, cette femme est repartie comme elle est venue. »« Que voulez-vous dire ? » demanda le chevalier. « Je veux dire que les X ont envoyé la belle espionne chez vous pour savoir ce que nous avons fait de leur compagnon tué par vous. » Or, la Focamore, prise par d'autres sentiments peut-être, qui sait, entraînée malgré elle par un courant plus fort que sa volonté, a oublié quelque peu, dans le rappel du souvenir, l'objet de sa mission. Je veux dire qu'en somme, elle était venue pour découvrir quelque chose et qu'elle est partie de chez vous sans rien savoir de plus qu'à sa venue. » Martin Humain insista. « Sans rien avoir appris, entendez bien, sans rien avoir appris. Et c'est là le nouveau point dangereux. Pourquoi dangereux ? Parce que ces gens tiennent à savoir ce que vous avez fait de leur complice. Qu'ils aillent chercher ailleurs ? Pas du tout. Ils n'iront pas ailleurs. C'est chez vous qu'ils espèrent trouver la réponse. Ils savent bien que je ne dirai rien. Ils ont envoyé la phoque à Moret. Elle n'a rien appris. Alors ils reviendront. Qu'ils reviennent. » Allumant une nouvelle cigarette, Martin Humain ajouta. « Et maintenant, nous voyons qu'après avoir essayé de vous faire taire, ils vont entreprendre de vous faire parler. Sans plus de chance. » Martin Humain étendit le bras. « Chevalier Fontis, dit-il d'une voix grave, ces gens sont très forts, hardis, sans scrupules. Vous êtes, vous, honnête et loyal. Vous êtes brave, héroïque. Vous êtes un gentilhomme. Eux, ce sont des bandits. Vous me comprenez ? Vous ne voulez pas que moi, qui ai l'habitude de combattre les bandits, je vous garde. Eh bien, chevalier, je vous le redis, gardez-vous bien. Chevalier, gardez-vous. » Le roi des détectives conclut. « Moi, je confie à sa bravoure, à son courage averti, celui qu'on veut faire parler. Et je vais veiller sur la troisième victime, celle qu'on veut faire taire, sur cette jeune femme seule, sur la Margellina. » Ainsi s'achève « Les bourreaux invisibles », tome 9e, des aventures de Martin Humain, le roi des détectives.